Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus.
Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord et candidat aux législatives.
Bonjour Sébastien Chenu.
Bonjour monsieur.
Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Le pouvoir d'achat, l'affaire Damien Abad, le burkini à Grenoble. On va évoquer ces sujets dans le prochain quart d'heure, mais d'abord la campagne des législatives. Le premier tour c'est le 12 juin, dans moins de 3 semaines. Le RN est sur le terrain, vous-même aussi, hein, mais on a l'impression qu'elle n'imprime pas cette campagne. Comment expliquez-vous que votre parti semble un peu en retrait pour ces législatives ?
Non mais tout le monde est sur le terrain, vous venez de le dire, d'ailleurs nos candidats, Marine Le Pen en tête, sont sur le terrain. Marine Le Pen était hier à Marignane. Dans les Bouches-du-Rhône, elle va venir d'ailleurs aussi dans le Nord la semaine prochaine, donc nous, vous savez, nous sommes des gens sérieux, nous prenons les élections au sérieux et nous ne racontons pas des fadaises aux Français. On n'est pas comme Jean-Luc Mélenchon qui, au lieu d'être Premier ministre, pour moi est Premier mytho. Il n'y a pas un Français qui croit que Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre. Tout ça, d'ailleurs il ne le sera tellement pas que lui-même n'est pas candidat aux élections. La réalité, c'est que Jean-Luc Mélenchon prépare sa propre sortie politique. Donc, on ne raconte pas de fadaise dans les institutions telles qu'elles sont. Et encore plus, depuis qu'il y a le quinquennat, se dégage une majorité et une opposition. Il faut demain que l'opposition soit la plus nombreuse possible, la plus sérieuse possible, la plus combative possible. Et cette opposition, ça ne peut être que le Rassemblement National. D'ailleurs, les Français ont tranché au moment de l'élection présidentielle. Ils ont installé Marine Le Pen comme opposante numéro 1. Eh bien, demain, je ne doute pas, parce que nos candidats sont aussi beaucoup plus implanté que la dernière fois, que les Français enverront des dizaines et des dizaines de députés du Rassemblement National.
On va revenir sur cette question de l'opposition. Qui pour incarner cette opposition ? Mais déjà, pour se concentrer de nouveau sur Marine Le Pen, quand elle dit à nos confrères de la Provence, quand vous arrivez à réunir 42% des gens, ce qui n'est pas suffisant pour gagner, vous avez du mal à repartir dans une structure partisane. Moi, j'en ai fait le tour. Vous n'avez pas peur que de tels propos, alors qu'on est en pleine campagne, puissent démotiver un petit peu les troupes sur le terrain ?
Non, mais que Marine Le Pen dise que sa perspective ne soit pas de se réenfermer dans une boutique, reprendre la tête d'un parti politique, c'est une chose. Marine Le Pen, elle a une place singulière dans la vie politique française. C'est une immense femme politique. Elle a réuni 42% des Français, c'est-à-dire qu'elle a porté les idées patriotes à un niveau jamais atteint. L'idée, c'est pas de revenir dans une petite boîte, s'enfermer. Marine Le Pen, il faut qu'elle trouve une place qui lui permette cette expression, cette singularité dans la vie politique de demain. Et moi, je crois qu'elle a raison. Ça ne peut pas forcément être enfermé dans un parti politique,
à
s'occuper de la fédération, de ceci ou des affaires de cela.
Troisième défaite d'affilée justement sur des présidentielles. On sait que c'était une présidentielle aussi dure, assez animée, assez forte. Pas un peu de fatigue, de lassitude de sa part ?
Ah non, mais je crois que la responsabilité qu'a Marine Le Pen, c'est faire monter, et elle l'a fait avec Jordan Bardella et avec d'autres encore, des générations d'élus. On nous a fait suffisamment le reproche pendant des années, mais qui est autour de Marine Le Pen ? Mais il n'y a que Marine Le Pen. En tant que Marine Le Pen, à partir du moment où elle dit « je vais faire monter des gens, je vais faire élire des gens à l'Assemblée nationale, nous aurons des spécialistes dans tous les domaines », on dit « bah alors, et Marine Le Pen ?» Bah Marine Le Pen, sa singularité fait qu'elle sera probablement au-dessus de tout ça, avec un rôle qui reste probablement à déterminer, mais qui
président
est un rôle...
de groupe à l'Assemblée nationale,
mais pourquoi pas,
si vous
mais
avez
pourquoi
un groupe,
pas,
ce qui
mais
semble
pourquoi pas,
ouais,
mais pourquoi pas.
Bien parti dans les sondages, en tout cas.
En tous les cas, nous avons besoin d'avoir un groupe, les Français ont besoin qu'il y ait un groupe Rassemblement national.
C'est 15 députés,
parce
vous en aviez 8, là.
Parce que, exactement, si c'est pour... imaginer que l'opposition peut être l'opposition du burkini, l'opposition anti-BAC, l'opposition anti-flic, l'opposition pro-immigration que représente l'extrême-gauche de Jean-Luc Mélenchon, alors les Français ne seront pas défendus convenablement et les Français vont avoir besoin d'être défendus par des gens qui portent des aspirations évidemment populaires, des aspirations concrètes et qui savent mener la bataille face à Emmanuel Macron totalement en roue libre puisqu'il ne pourra pas faire un troisième mandat et qu'il ira donc au bout de ces logiques de déconstruction. On l'a déjà vu d'ailleurs avec la nomination du ministre de l'Éducation nationale.
Si Marine Le Pen est amenée à prendre la tête du groupe parlementaire, enfin l'Assemblée nationale du RN, c'est-à-dire que Jordan Bardella peut s'implanter en tant que président du parti sur la durée ?
Mais il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Jordan est un militant. Moi, je pense que pour être président d'un parti politique, il faut avoir l'âme militante. Il a cette âme militante. Et je pense que dans le mouvement qui est le nôtre, on a de la ressource humaine aujourd'hui. On a des gens que vous avez découverts pendant l'élection présidentielle qui, demain, je l'espère, seront députés, prendront des responsabilités dans le mouvement, à l'Assemblée, ailleurs, pour continuer à porter le combat patriote autour de la voie, de la ligne aussi, qui est celle défendue par Marine Le Pen depuis des années, avec le succès qu'on lui connaît.
Vous avez évoqué le ministre ministre de l'Éducation nationale, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye. A priori, vous ne le portez pas dans votre cœur. C'est une personnalité qui a provoqué pas mal de débats, de réflexions, de débats, justement. Pourquoi vous bloquez sur cette personnalité-là ?
Non, mais Pap Ndiaye n'est pas né le jour de la formation du gouvernement. C'est un intellectuel dans notre pays, et d'ailleurs il a le droit d'avoir les positions qu'il veut en tant qu'intellectuel. Il est indigéniste, il est déconstructeur du modèle républicain, il explique que la France est un pays dans lequel il y a un racisme, je ne sais plus quel était le, structurel, voilà, un racisme structurel. Oui. Il a participé à des réunions interdites aux Blancs. On imagine si un ministre du même gouvernement avait participé à des réunions interdites aux Noirs.
Il a rendu hommage à Samuel Paty.
Oui, en oubliant de parler de l'islamisme, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, en oubliant de parler de l'islamisme.
C'est ça,
le fondement. Donc, on voit bien que Pap Ndiaye est un militant indigéniste, communautariste, qui va faire entrer le wokisme dans l'éducation nationale. En tous les cas, tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a défendu dans son passé va dans ce sens-là. Donc, c'est très gênant. C'est le moins qu'on puisse dire qu'il se retrouve à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je juge un homme à ses écrits, à ses actes politiques. Je ne juge pas l'individu lui-même, je juge ses actes politiques, ses actes publics, et je vois qu'ils sont contraires à l'idéal républicain qui est le mien.
Pour avoir une vraie force d'opposition à l'Assemblée nationale, est-ce que vous n'avez pas quelques regrets aujourd'hui de ne pas avoir pu nouer d'alliance avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour ? Est-ce que c'est possible, envisageable, dans un entre-deux-tours ?
Non mais nous l'avons dit, s'il y a des candidats à Reconquête qui sont devant les candidats du Rassemblement National et qui vont affronter des candidats En Marche ou De Gauche au second tour, nous les soutiendrons. Et nous attendons évidemment l'inverse. Et c'est bien plus sain comme ça, parce que faire une alliance, ça veut dire s'entendre sur un programme. Or, il y a des points de programme avec lesquels, notamment la retraite, nous sommes contre la retraite à 65 ans, il y a des points de programme avec lesquels nous avons de vraies divergences avec Éric Zemmour. Donc chacun dans son couloir propose son programme, défend ses idées à travers les candidats qu'il estime être les mieux placés dans les circonscriptions. Et puis au second tour, encore une fois, s'il y a des candidats Reconquête, nous les soutiendrons.
Vous avez dit que vous, au Rassemblement National, vous prenez ces élections législatives au sérieux. Pourtant, on a vu ces derniers jours, ces dernières semaines, qu'il y avait une forme d'amateurisme de la part de certains de vos candidats. Ça fait beaucoup réagir.
Non, je ne crois pas du tout. Vous avez vu, en fait, deux jeunes femmes qui ont perdu leurs moyens sur deux plateaux télé sur 577 candidats. C'est probablement mieux que d'investir un candidat qui avait été poursuivi pour coups et blessures sur son épouse. C'est probablement mieux que d'investir des candidats qui sont poursuivis par la justice. C'est probablement mieux que d'investir un candidat qui déclare qu'il a été dealer dans son quartier, comme le fait la France Insoumise. Oui, il y a deux jeunes femmes.
Des candidats qui ne sont plus...
Il y a deux jeunes femmes. Le candidat qui a été dealer, M. Boyard, qui est candidat de la gauche et de l'extrême gauche dans le Val-de-Marne.
Sur la question des violences conjugales, notamment, et puis sur votre dernier exemple.
Oui, mais je vous donne des exemples dans d'autres mouvements politiques. Eh bien oui, il y a deux candidates sur 577 qui sont des jeunes femmes dont c'est la première expérience électorale, qui sur un plateau de France 3 n'ont pas su répondre à une question. Est-ce que c'est très grave ?
Il y a plusieurs questions, notamment sur l'école. Qu'est-ce que vous feriez pour l'école si vous êtes élu ? Je ne sais pas.
Non mais il y a pas de réponse. Ceci n'est, je veux dire, on va pas ériger ces deux candidates pour discréditer autres. Non, elles ont probablement manqué de préparation. C'était leur premier plateau télé. Peut-être vous vous souvenez de votre première radio, vous n'étiez peut-être pas très à l'aise. En tout cas, moi, je me souviens de ma première télévision je n'étais probablement pas très à l'aise non plus. Et donc, elles sont candidates parce qu'elles ont des convictions patriotes fortes. Elles les défendent. Et je vous le dis encore une fois, c'est toujours mieux que d'avoir été dealer ou d'avoir battu sa femme.
Mais c'est peut-être aussi difficile de trouver des candidats dans l'ensemble des 577 circonscriptions.
C'est
peut-être ça aussi.
Aujourd'hui, tous les partis politiques sont confrontés à l'idée de trouver des gens pour représenter, parce que la politique est devenue un milieu violent, vous êtes traîné dans la boue matin, midi et soir, et que lorsque vous avez des convictions et que vous souhaitez les défendre, c'est jamais un acte simple que d'aller se présenter devant les électeurs. Il faut du courage pour être candidat aux élections. Elles en ont, et probablement ces attaques montrent qu'elles en ont pour plus.
On parlait de l'élection de la première force d'opposition. Qui sera la première force d'opposition pour l'instant? Si on regarde sur les sondages, c'est plutôt Jean-Luc Mélenchon en termes de nombre de députés. Alors, les sondages réalisés à l'instant T, on le rappelle, bien sûr, c'est important, ça peut encore évoluer, mais ça vous inquiéterait justement que Jean-Luc Mélenchon fasse un gros score sur les législatives? Il représente une réelle menace pour vous?
Les sondages sont faits au niveau national. Or, les législatives, c'est 577 élections, avec des données locales, parfois des profils de candidats locaux, parfois qui changent un peu la donne. Donc, encore une fois, méfions-nous. Mmh. Moi, je dis simplement aux Français que s'ils veulent des candidats, des députés qui défendent le Burkini, aujourd'hui, on va voir, il y a un appel en justice sur le Burkini, comme les candidats de l'extrême gauche de Grenoble.
C'est l'occasion d'en parler, parce que c'est le tribunal administratif qui va se prononcer, qui a été saisi, en l'occurrence, par le préfet, et qui doit justement statuer sur cette autorisation de la mairie de Grenoble pour le port du Burkini dans les piscines municipales.
C'est très intéressant parce que justement, nous, par exemple, nos députés, l'une des premières choses qu'ils feront, c'est déposer une proposition de loi pour l'interdiction du Burkini dans notre pays. Mais pour interdire le Burkini, il faut définir ce qu'est l'islamisme. Parce que moi, je vous le dis, si aujourd'hui la justice autorise le Burkini à Grenoble, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas capable de définir ce qu'est l'islamisme. Or, le Burkini est la tenue de l'islam radical. C'est la tenue de l'islamisme. Donc, il faut définir l'islamisme. On sait définir des idéologies, ça existe déjà. Et on sait définir ce qui incarne cette idéologie. Les députés du Rassemblement National déposeront une proposition de loi pour interdire le Burkini, définir l'islamisme. C'est sûr que là-dessus, on ne pourra pas compter sur les amis de M. Mélenchon.
Par rapport, en tout cas, à Grenoble, la justice, on attend la décision de la justice.
Absolument.
Voilà. Ça, c'est pas encore fait. Pour le pouvoir d'achat, passons au pouvoir d'achat. Sébastien Chenu, c'était votre thème de prédilection pendant la présidentielle. Ça l'est toujours sur ces législatives. Comment réagissez-vous aux annonces du gouvernement concernant ce pouvoir d'achat des Français, notamment alors l'instauration d'un chèque alimentation, la prolongation de la ristourne sur les carburants, des boucliers tarifaires sur le gaz également, ou encore l'indexation dès cet été des retraites sur l'inflation. Bon, ce sont des bonnes mesures.
Si vous voulez, je suis stupéfait par le fait que ce gouvernement n'ait rien fait depuis qu'ils ont été réélus. Rien fait. Or, chaque jour, lorsque vous mettez de l'essence, que vous achetez des tomates, que vous achetez des œufs, vous voyez l'envolée des prix. Et c'est pas fini. Ce n'est que le début. Ça fait un mois qu'Emmanuel Macron a été réélu. Rien n'a été fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il propose ? De colmater les brèches. Par exemple, sur la réindexation des retraites, pendant 5 ans, ils ne les ont pas réindexées. Mmh. Je veux dire, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. Nous, on propose des choses qui sont des solutions pérenne. Quand on propose 0% de taxes de TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité, c'est concret et c'est tant qu'il y a de l'inflation. Quand on propose la baisse de 5% de la TVA sur l'essence, c'est pérenne. C'est pour que ça dure dans le temps. Et puis inventer des chèques, enfin payer, donner des chèques pour payer des taxes, qu'est-ce que c'est que ce non-sens économique ? Et puis dernier point, encore sur le pouvoir d'achat, arrêtons par exemple aussi avec le contrôle technique pour les deux roues. Ce contrôle technique qui n'est simplement qu'une cash-machine destinée à faire rentrer de l'argent dans les caisses. Moi j'avais manifesté au moment des élections régionales avec les motards sur cette absurdité qu'est cette contrôle technique sur les deux roues. Eh bien, il faut s'opposer à tout ça, c'est encore de l'argent qu'on veut piquer aux Français.
Quand le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en appelle aux entreprises pour augmenter les salaires, distribuer des primes défiscalisées, c'est en quelque sorte ce que vous proposiez déjà dans le programme présidentiel du RN, inciter les entreprises plutôt que de les contraindre. Là, ça va dans le bon sens finalement.
Non mais on nous a fait le procès, Emmanuel Macron a fait le procès à Marine Le Pen, de vouloir augmenter les salaires de 10%, les salaires des entreprises de 10%, en échange du gel des cotisations patronales. Il lui a dit, madame, vous ne pouvez pas contraindre les entreprises. Mais merci, nous le savons, et d'ailleurs, ils ont exactement la même difficulté. Évidemment, il faut réunir autour d'une table les entreprises, les partenaires sociaux, les syndicats, pour pouvoir aller dans cette direction. Les entreprises ne pourront pas faire l'économie d'une hausse de salaire, parce qu'il y a une pression telle, le pouvoir d'achat est tellement impactées qu'elles vont devoir faire cet effort. Il faut les accompagner et c'est exactement ce que proposait...
Avec un accompagnement peut-être plus ciblé aussi.
Avec un gel des cotisations patronales, c'est ce que proposait Marine Le Pen. Donc ce gouvernement va devoir finalement faire probablement ou aller sur le chemin que nous proposions. Encore une fois, finalement, c'est une façon de rendre hommage à la pertinence économique de Marine Le Pen.
Finalement, Emmanuel Macron, il fait du Marine Le Pen là en ce moment.
Non, il ne fait pas du Marine Le Pen parce qu'il ne va jamais jusqu'au bout des logiques. Et en nommant Pape Ndiaye ou en refusant d'avoir des mesures pérennes sur
le pouvoir d'achat,
il refuse d'avoir des mesures pérennes sur le pouvoir d'achat, eh bien, il ne va pas au bout des choses et n'obtiendra donc pas les résultats qu'aurait obtenu Marine Le Pen.
Sur la réforme de la retraite à 65 ans, finalement, ça, c'est pas trop la priorité du moment. On a la pression. C'était de nouveau repoussé. Ça vous rassure ? Ça vous réjouit ?
Ah non, au contraire, ça m'inquiète parce que quand c'est flou, il y a un loup. Quand vous pensez que ça n'a même pas été évoqué au premier conseil des ministres, on voit bien qu'Emmanuel Macron attend que les législatives soient passées pour dégainer et pour installer une réforme des retraites particulièrement dure vis-à-vis des Français. Bien entendu, il ne veut pas le dire avant les législatives. Il ne l'évoque même pas au conseil des ministres. Mais il va falloir s'accrocher. Il va en falloir des députés Rassemblement National, là encore, pour lutter contre cette réforme des retraites.
Venons-en, Sébastien Chenu, à l'affaire Damien Abad, l'actuel ministre des Solidarités, accusé de viol. Rappelons rappelons-le, par deux femmes. La première a porté plainte. Ces deux plaintes ont été classées sans suite en 2012 et en 2017. Pour la seconde, un signalement a été envoyé récemment au parquet. La première ministre Elisabeth Borne affirmait qu'elle n'était pas au courant. On vient d'apprendre hier soir que Matignon et l'Élysée auraient bien été informés, a priori vendredi soir. Ça vous fait réagir là-dessus ?
Oui, il y a plusieurs choses. Bon, il y a Abad et il y a la position du gouvernement. D'abord, moi je n'ai aucune tendresse pour Damien Abad. Ce type qui était soi-disant le premier opposant, qui est devenu le premier allié, est l'image la plus exécrable de ce qu'on peut faire
qui
en politique.
Qui était à l'époque, on peut le dire aussi, qui était à la tête des députés
Pendant 5 ans, Damien Abad nous a dit « Je suis le premier opposant à Emmanuel Macron, nous sommes à la tête du premier groupe d'opposition, il est devenu le premier allié. » C'est vraiment sans foi ni loi. À côté de ça, moi je déteste, je vous le dis, le tribunal médiatique. Si Damien Abad a un problème avec la justice, il s'en expliquera devant la justice. Traîner quelqu'un dans la boue médiatique alors qu'on ne connaît pas les choses, que ça sort, sincèrement, c'est une affaire qui a 10 ans et elle est peut-être très sérieuse ou peut-être pas du tout. On la sort aujourd'hui, il y a un côté manip qui me semble pas acceptable et il y a une présomption d'innocence qu'il faut respecter. Encore une fois, j'ai pas de tendresse pour Damien Abad, je pense que la parole des femmes est très importante, mais je trouve qu'il y a un côté
mais il a
très
manip. Mais il n'a pas d'obligation à démissionner.
Il y a un côté très manip. Mmh. Mais en revanche, qu'Elisabeth Borne nous dise « Je ne mentirai jamais aux Français, je n'hésite pas au
courant. » C'est ce qu'elle disait sur les retraites dimanche dernier.
Et en fait, elle était tout à fait au courant. Eh bien, ça montre que ce gouvernement, non seulement est cynique, qu'Elisabeth Borne commence mal en baratinant les Français, et qu'ils auraient pu faire l'économie de cette polémique, y compris pour Damien Abad lui-même, qui se serait expliqué, qui se serait présenté devant les électeurs auraient tranché, qui se serait expliqué devant la justice s'il y avait matière à, et le gouvernement aurait évité cette polémique particulièrement nauséabonde. Donc Elisabeth Borne inaugure ce quinquennat en baratinant les Français.
Pour rester très factuel, pour l'instant, on n'a pas la preuve qu'Elisabeth Borne était au courant. On sait que le service presse de Matignon a été informé, alors on peut en déduire peut-être qu'elle était au courant à ce moment-là, qu'elle a été au moins tenue au courant par ses équipes, mais on n'a pas de preuves formelles. C'est important aussi de
le
préciser.
Mais enfin, le service de presse a reconnu être informé, le service de presse de Matignon, pas celui du voisin de palier.
Cette affaire, en tout cas, intervient alors que Nicolas Hulot était, lui, entendu hier en audition libre dans le cadre d'une enquête pour viol, d'agression sexuelle. Vous pensez qu'il y a urgence, en tout cas, à faire le mélange en politique à ce niveau-là ?
Non, mais il y a urgence simplement à faire en sorte que ce qui est une infraction vis-à-vis de la loi soit lourdement condamné. Oui. Quand on sort des clous, on est condamné. Nicolas Hulot, s'il est sorti des clous, il sera probablement condamné. Et après, il y a aussi le respect de sa vie privée. Vous pouvez avoir la vie privée que vous voulez dans ce pays. On n'est pas dans un pays anglo-saxon où il y a quelqu'un derrière le trou de serrure pour essayer de vous épier ou de vous traîner dans la boue parce que vous avez souri à quelqu'un dans un ascenseur. Il faut absolument conserver ça. Sanctionner très fermement les gens qui contournent ou transgressent la loi, notamment dans toutes ces affaires d'agression sexuelle ou de comportement inadapté. Et pour le reste, il y a une présomption d'innocence, un respect de la vie privée, à laquelle moi je suis attaché, parce que sinon demain, ce seront les chefs d'entreprise, les journalistes, le patron, le commerçant de votre coin, les ouvriers à l'usine, chacun se jettera des choses sous couvert d'anonymat au visage, et la société s'écroulera.
Merci beaucoup Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National, député du Nord et donc candidat aux législatives dans la 19e circonscription du Nord, candidat à votre réélection. Vos adversaires, ils sont 8, on les donne.
Eh bien, embrassez-les pour moi.
Emmanuel Charrier, ça sera fait d'ensemble. Patrick Soloche, NUPES ou NUP, voilà. Christine Troya, Reconquête. Cédric Noulin, Les Républicains. Vincent Duquesne, Parti Animaliste. Cécile Bourlet, Lutte Ouvrière. Bruno Rakiewicz, l'UDI. Et puis Jamie Dricci, candidat non encarté. Voilà qui est dit. Merci à vous Sébastien Chenu et bonne journée.
C'est presque un lancement de Guy Carlier. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. Dans un instant, juste après le rappel des titres, ce sera la revue de presse avec Pierre Géraudy qui est avec nous ce matin et journaliste à la montagne, Vichy. Restez là, 8h34.